enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dimanche dernier, je suis sûr que vous vous souvenez du titre de la prédication. Hein, avec un titre comme ça, on ne peut pas l'oublier. C'était « Attache ta tuque ». Nous disions qu'il est temps de se préparer parce que ça va décoiffer. Le Seigneur est celui qui fait de grandes choses. Et quand il agit au milieu de nous, ça se remarque. Vous savez, quand Jésus était quelque part dans un village, quand Jésus passait de ville en ville, de village en village, eh bien, ça se savait. On savait que Jésus était là parce qu'il se passait toutes sortes de choses extraordinaires et merveilleuses. Et nous croyons que le Seigneur veut passer à Drummondville aussi. Amen. Le titre de la prédication ce matin, et on peut l'afficher, c'est « Sanctifiez-vous ». Et nous posons cet énoncé ce matin, « Sanctifiez-vous » égale « Soyez prêts ». Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça a pas rapport? Ou est-ce que c'est logique? « Sanctifiez-vous » égale « Soyez prêts ». Dans Est-ce que la projection est prête? Soyez prêts. Dans quelques temps, nous allons partir à partir du 4 mai. Nous allons aller dans cette série qui va s'appeler « Veux-tu être guéri ?» Est-ce que nous sommes prêts pour cette série? Est-ce qu'on est prêts pour voir la gloire de Dieu au milieu de nous? Est-ce qu'on est prêts pour manifester la puissance de Dieu? Vous savez, dans Actes chapitre... Dans Marc chapitre 16, il est dit « Voici les signes et les miracles qui accompagneront qui ? Ceux qui auront cru. » Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont cru ? C'est sûr ? Donc vous êtes prêts pour qu'à partir du 4 mai, vous imposez les mains aux malades et les malades sont guéris. Vous allez dire « Non, non, ça c'est pour le pasteur. C'est lui qui croit. Nous, on n'est pas sûr. » Allô ? Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous êtes prêts à dire « Seigneur, je peux imposer des mains aux malades et les malades sont guéris en ton nom ?» Waouh, là c'est plus trop sûr qu'on soit prêt, non ? Il faut se préparer. On ne peut pas arriver les mains dans les poches à l'improviste, vous savez, c'est à la Deuxième Guerre, les soldats sont allés à la guerre, on dit « la fleur au fusil » en disant « À la première, je me disais, j'avais un doute là. À la Première Guerre mondiale, ils sont allés à la guerre, la fleur au fusil, en disant « Oh, facile la guerre, on est fort, on va les avoir du premier coup. » Et ça n'a pas été si facile. Et réalisons que nous sommes dans un combat spirituel aussi et qu'il faut se préparer. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Exode. Nous allons prendre comme texte de base Exode, chapitre 19. Et on va lire trois versets. 9, 10 et 11. Exode, chapitre 19. Donc c'est dans ce temps-là, nous sommes là avec Moïse et avec le peuple d'Israël. Moïse a conduit le peuple d'Israël hors de la captivité de l'Égypte. Ils ont vu des choses merveilleuses. Il y a eu les plaies d'Égypte, oui, ils ont vu la puissance de Dieu. Mais ils ont vu aussi eh bien, la mer s'ouvrir. Ils sont passés à sec. Au travers de la mer, ils ont vu la colonne de feu, ils ont vu la nuée qui les conduisait, ils ont vu de l'eau qui est apparue d'une manière miraculeuse, ils ont vu toutes sortes de belles choses. Et voilà maintenant que Moïse est avec le peuple devant la montagne du Sinaï et que Dieu s'adresse à Moïse de la sorte. Moïse 19, verset 9. « Et l'Éternel dit à Moïse, voici. » Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles au peuple, les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Amen. Voilà donc des paroles que nous allons examiner à la loupe ce matin, où Dieu annonce qu'il va descendre et que sa gloire va se manifester. Il dit, voilà, je vais venir dans une épaisse nuée et il va y avoir là ma présence et ma gloire. Mais il dit, il faut vous préparer. Sanctifiez-les. La sanctification est cette étape indispensable de préparation pour voir la gloire de Dieu. Et le troisième jour, je descendrai. Et le troisième dimanche, après trois dimanches de préparation, dimanche passé, aujourd'hui, et dimanche prochain, non, non, ça ne marche pas mes comptes là. Bon, oubliez ça. En tout cas, non, parce que c'est le troisième, puis là on va arriver le quatrième, alors c'est pour ça que ça ne marche pas. En tout cas, il faut se préparer, et c'est important d'être dans ce temps de préparation. Pourquoi est-ce qu'il faut se préparer? Pourquoi est-ce qu'il faut se sanctifier? Premièrement, voyons voir une bonne raison. Ben, on pourrait en avoir plusieurs, mais disons une raison à la sanctification. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se sanctifier? À quoi ça sert de se sanctifier? Pourquoi faudrait-il se sanctifier? Quelle est la raison? Quelle est la raison primordiale, la raison première à la sanctification? Exode 19:9, nous l'avons lu ensemble. « Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai. » La première raison pour la sanctification, c'est parce que Dieu nous dit « Je viendrai vers toi ». Je vais venir vers toi. Dieu lui-même nous fait cette promesse de venir au milieu de nous. La question ce matin, sommes-nous prêts pour recevoir la visite de Dieu? Est-ce que ça vous arrive d'avoir de la visite à la maison? Est-ce que vous vous préparez quand vous avez de la visite? Est-ce qu'on fait le ménage en grand? Est-ce qu'on nettoie un peu plus que d'habitude? Est-ce qu'on se prépare? Vous allez dire, tout dépend de la visite. Mais là, c'est de la grande visite. Et quand Dieu nous visite là, est-ce que c'est de la grande visite ou on fait à la fortune du pot? Ou est-ce qu'on dit, Dieu veut venir au milieu de nous. Il faut nous préparer. Lévitique, chapitre 11, verset 44, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Voyez-vous, parce que Dieu est saint, c'est sa nature même, il nous demande d'être saints, de nous sanctifier, pour pouvoir là recevoir sa présence. Vous savez, on ne peut pas recevoir la présence d'un Dieu saint dans un espace malsain. On ne peut pas recevoir la présence du Dieu saint, du Dieu grand, du Dieu puissant, là où règne le désordre, le péché et les mauvaises choses. Pour recevoir la présence du Dieu saint, il faut être sanctifié. Si on devait vous donner un liquide précieux, si j'étais en France, je dirais du bon vin, mais je ne sais pas quel exemple donner, du sirop d'érable. Et qu'on dit, voilà, le liquide, on doit te donner ce liquide précieux, mais dans quoi on le met? Oh, ben prends, j'ai une vieille boîte de conserve qui traîne là dans le... Et non, mais là, tu vas tout gâcher, tu vas tout abîmer. On ne met pas quelque chose de précieux dans un contenant qui est sale, qui n'est pas approprié. Et même plus le liquide est précieux, et plus on va faire attention à ce que ce soit bien propre. Parce qu'on ne veut pas que ça se gâche, on ne veut pas perdre, on ne veut pas dénaturer le goût. Et lorsque nous recevons la présence de Dieu, nous devons être sanctifiés. Parce que Dieu est saint. Et on ne peut pas recevoir la présence de Dieu dans notre vie. On ne peut pas recevoir la présence de Dieu dans notre famille, on ne peut pas recevoir la présence de Dieu dans notre Église si nous ne sommes pas purifiés, sanctifiés. Vous vous sanctifierez, dit l'Éternel, vous serez saints, car je suis saint. Moïse avait vécu cette expérience dans Exode chapitre 3, où quand il a vu ce buisson ardent qui brûlait, qui s'est détourné, il a voulu voir ce qui se passait vers ce buisson, et il entend une voix qui lui dit « Attends avant de t'approcher, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas venir là où Dieu se trouve, comme ça, sans t'être préparé, sans t'être sanctifié, sans avoir enlevé ce qui était impur. Ôte les souliers de tes pieds, marque un geste, un signe de respect, de révérence avant de venir dans la présence de Dieu. Et si nous croyons que Dieu veut nous visiter au mois de mai dans cette série « Veux-tu être guéri ?», nous avons besoin de nous préparer et de nous sanctifier. On ne peut pas dire « Oh, il arrivera ». Vous savez, c'est pas... Est-ce qu'on croit que c'est Dieu qui vient nous visiter ? Est-ce qu'on croit que c'est le Dieu vivant, puissant, celui qui est saint, qui vient agir au milieu de nous ? Ou est-ce qu'on est là dans d'autres conceptions, on dit « Oh, ça va être le fun, ça va être marrant, tiens, ça va avoir du spectacle, ça va bouger un peu, ça va changer. » Non, on est dans la présence de Dieu. Et quand on réalise la grandeur et la puissance de Dieu, quand la crainte de Dieu s'empare et se saisit de nous, on ne peut que se sanctifier, se mettre à l'écart, devenir saint, ôter nos souliers pour être là dans un lieu saint et dire « parce que Dieu est saint ». Il faut nous sanctifier. Deuxièmement, la sanctification, c'est une préparation. La préparation de la sanctification. Sommes-nous prêts pour recevoir une visitation spéciale de la part de notre Dieu? Sommes-nous prêts? Dans le passage que nous avons lu au verset 11, Exode 19, 11, nous avons lu ensemble que Dieu disait à Moïse qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Qu'il soit prêt. Et c'est la question que je posais tout à l'heure en introduction. Est-ce que nous sommes prêts? Dans un tout autre contexte, je l'accorde. Le prophète Amos pouvait dire au chapitre 4, verset 12, c'est pourquoi Dieu la parle au travers de son prophète et Amos peut dire de la part de Dieu, je les traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et Amos pouvait parler de la part de Dieu au peuple d'Israël et dire, prépare-toi, non, on est en avance là, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer Dieu? Alors c'est sûr que dans le contexte ici, c'était pour rencontrer Dieu qui était fâché contre son peuple. C'était pour rencontrer la réprimande de Dieu. Et Amos pouvait dire « Prépare-toi parce que Dieu s'en vient ». Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer Dieu? Est-ce que nous avons des choses à nous reprocher avant de rencontrer Dieu? Vous savez, des fois, on va dans la présence de Dieu et on n'est pas prêt. On vient pour demander toutes sortes d'affaires, mais nous avons vu dans une série sur l'Apocalypse il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'on a la mémoire courte? Est-ce qu'on s'en souvient? Ou alors que Jésus marchait au milieu des chandeliers, alors que Jésus était là au milieu de ses églises, il pouvait répéter cette phrase, malheureusement assez souvent, « Ce que j'ai contre toi ». Alors que Jésus est là, présent au milieu de ses églises, il dit « Voici, j'ai quelque chose contre toi ». Est-ce que nous pouvons dire « Seigneur, nous t'ouvrons la porte, viens au milieu de nous, manifeste ta présence au milieu de nous, viens guérir au milieu de nous » et que finalement le Seigneur, quand il vienne au milieu de nous, dise « Bon, avant là, ce que tu me demandes, il faut qu'on règle certaines affaires là. J'ai des choses contre toi, il y a un contentieux. » Vous savez, c'est un peu comme si vous êtes fâché avec un ami et puis vous lui avez fait de la peine, il y a toute une affaire, ça a duré des semaines et des mois. Puis un jour, vous avez besoin d'argent, vous allez frapper à sa porte en disant « Hey, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent ?» Il va dire « Hey, minute, wow, minute, ça va faire, pas si vite. Tu viens me demander de l'argent, mais on a des comptes à régler avant. Il y a des affaires qui ne sont pas réglées entre nous. Il y a des choses qui n'ont toujours pas été réglées et maintenant tu viens frapper à ma porte pour que je vienne t'aider. » Est-ce qu'avec Dieu, on ne fait pas ça souvent malheureusement? où on vient frapper à la porte de Dieu, où on dit « Seigneur, viens agir dans ma vie, Seigneur, viens guérir, Seigneur, viens manifester ta puissance. » Et nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, et il y a encore un contentieux entre Dieu et nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais dans le même contexte, alors que le prophète Amos continue à, et vous pourrez lire ça, et vous verrez que après le chapitre 4, il y a le chapitre 5, mais c'est la même prophétie. Dans ce chapitre 5, Amos peut dire, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Alors que Dieu dit à son peuple, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce qu'il y a des temps de représailles, des temps mauvais qui s'en viennent sur toi. » Dieu peut dire à son peuple aussi, « Cherchez-moi et vous vivrez. » Préparez-vous, cherchez ma face, cherchez ma volonté, soyez prêts quand je viendrai et vous vivrez. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, il est question de joie parce que c'est une fête, ce sont des noces, les noces de l'agneau. Et il est dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Est-ce qu'il y en a qui sont mariés ici? Mesdames, est-ce que vous êtes préparées pour le jour du mariage? Ouais? Ça a mis combien de minutes? Ah non, combien d'heures? Ah non, combien de jours? Ah non, combien de mois? Combien d'années? Vous savez, la reine Esther a mis un an pour se préparer avant de rencontrer le roi. Et pendant 6 mois, il fallait qu'elle prenne des bains d'huile d'amande douce, je crois. Puis pendant 6 mois après, des bains avec du lait d'anès, ou je ne sais plus trop. Vous vérifierez ça dans le livre d'Esther. Mais enfin, c'était toute une préparation, ça. Waouh ! S'il y en a qui sont fiancés, là, donne au moins une année à ta fiancée pour qu'elle se prépare pour le mariage. Oh, tout ça ! Mais en tout cas, ici, on est dans l'Apocalypse. Et quand on parle des noces de l'agneau, l'agneau, c'est Jésus. Et quand on parle de son épouse qui s'est préparée, c'est l'Église. Et l'Église est prête pour le jour des noces. Est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce que nous-mêmes sommes prêts pour le jour où Jésus viendra nous chercher? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, alors que Jésus vient bientôt. Est-ce que son Église est prête pour son retour? Est-ce que nous dirons, Seigneur, attends un peu, je ne suis pas tout à fait prêt? Ça arrive, ça, des mariages où il y a un peu de retard, non? Où on est là en train d'attendre. Généralement, le marié est là. Excusez-moi, hein, c'est comme ça, c'est des statistiques. Généralement, le marié est là et on attend la mariée. Elle est où? Ah ben, c'était pas prêt. Il fallait refaire la coiffure. Il y a un problème avec la robe. Il n'y avait pas quelque chose comme ça, Marie-Michel? Pas la bonne taille, là. Ah, il y a un problème avec ceci, il y a un problème avec cela. Non, c'était Marie-Michel ou Annie-Claude, je ne sais plus. Ah, c'était les filles d'honneur, c'était pas la mariée. Ah, ça va. Et on est là en train d'attendre et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va faire attendre le Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher? L'histoire, ce n'est pas de toujours se préparer, mais c'est de dire, je serai prêt. Vous savez, on est en fin de session là pour les étudiants. On a des étudiants dans l'église qui prennent des cours avec l'Institut biblique du Québec. Il y en a d'autres qui sont au cégep, d'autres qui sont à l'école secondaire. Quand il arrive à un moment où c'est la fin de session, où il y a des examens, c'est le temps de commencer à réviser. C'est le temps de se préparer. Non, 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 on se prépare avant, j'espère. On ne dit pas, hey, j'ai un examen la semaine prochaine, il serait temps que je m'y mette. Il y en a qui travaillent comme ça. Mais en ce qui concerne le Seigneur, les choses sont plus compliquées parce qu'on ne connaît pas la date et on ne connaît pas l'heure. Et il nous demande d'être prêt. Pas dire « Seigneur, je vais me préparer un jour », mais d'être prêt. Maintenant, je reviens au contexte que nous avons actuellement dans cette Église. Nous savons que le 4 mai, nous commencerons une série sur le thème de la guérison. Croyons que Dieu est celui qui guérit aujourd'hui encore. La question, ce n'est pas dire, bon, on verra bien quand on y sera, on se préparera. Il est temps de se préparer pendant les 15 jours que nous avons devant nous et dire, Seigneur, nous voulons être prêts. nous voulons nous sanctifier. Dans Genèse, chapitre 28, verset 16, c'est un passage que je cite souvent, je pense. Oui, il est dit, c'est Jacob qui était là en voyage, il vient de quitter sa maison et il est là en exil. Et Jacob, à un moment, alors qu'il dort dans la nuit, va faire un rêve et il va voir une échelle, l'échelle de Jacob. Ça vous dit quelque chose? Et Jacob, donc, va voir un rêve, un songe, une échelle qui va jusqu'au ciel. Et de cette échelle, eh bien, il y a comme un mouvement de gens qui montent et qui descendent. Et Jacob se réveille et alors qu'il s'éveille de son sommeil, il dit « Certainement ». C'est en ce lieu, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, en hébreu Bethel. C'est ici la porte des cieux. Jacob se réveille ce matin-là en disant, mais Dieu est là, et je ne le savais pas. Est-ce qu'il était prêt? Il se réveille un matin en disant, c'est la maison de Dieu ici. Dieu est là, il se manifeste dans ce lieu et il reconnaît que le lieu dans lequel il est un lieu redoutable parce qu'il se dit, il a une crainte, une peur. Il dit, Dieu est là et je ne me suis pas préparé. Je suis dans la présence de Dieu et je ne suis pas prêt. Ne soyons pas surpris nous aussi de nous réveiller un matin en disant, le Seigneur est là, le Seigneur agit, le Seigneur se manifeste, et moi, je ne suis pas prêt. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Est-ce que l'église de Pentecôte de Drummondville est d'une certaine manière Bethel? Est-ce qu'on peut dire, oui, je crois que l'église de Pentecôte de Drummondville, c'est aussi la maison de Dieu. Là où Dieu se trouve, là où Dieu parle, là où Dieu agit. Et qu'en tant qu'Église, je ne parle pas des bâtiments ici, mais je parle de ce que nous représentons en tant que chrétiens, de notre rassemblement. Est-ce que nous pouvons dire oui, Dieu se tient au milieu de son peuple? Ou est-ce que certains se réveillent ce matin en disant, ah bon, Dieu est là et je ne le savais pas? Il est temps de te sanctifier, il est temps de te préparer, il est temps de te mettre à part parce que Dieu est là. Et quand on dit que Dieu est là, c'est le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu redoutable même. C'est une expression qu'on retrouve dans la Bible. Et est-ce qu'on peut réaliser que quand on vient dans la présence de Dieu, il faut être prêt parce que Dieu est grand, parce que Dieu est saint. Troisièmement, la parole de la sanctification. La parole de la sanctification. Et on voit que la sanctification et la parole sont souvent associées. Jean chapitre 17, verset 17, et c'est Jésus lui-même qui prie ainsi. Et Jésus dit, sanctifie-les. De quelle manière? Par ta vérité, ta parole est la vérité. Et alors que Jésus prie Dieu son Père, il dit « Sanctifie-les ». Mais comment seront-ils sanctifiés? Par le moyen de ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus dit lui-même, alors qu'il prie son Père, « Père, je te prie pour eux ». Et je prie pour que tu les sanctifies par le moyen de la parole. Mais Jésus dit aussi, moi-même, je me sanctifie. Je me sanctifie moi-même. Dans quel but? Pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Si nous voulons qu'à Drummondville, il y ait plus de gens, plus de personnes qui connaissent la vérité, qui passent de la mort à la vie, qui puissent reconnaître Jésus comme leur maître et leur sauveur. Est-ce que nous pouvons dire avec Jésus, moi aussi, je me sanctifie pour eux. Me sanctifier pour Dieu, me sanctifier pour être prêt, pour recevoir la présence de Dieu dans ma vie, oui, mais aussi me sanctifier pour eux. Afin qu'au travers de ma mise à l'écart, afin qu'au travers de ma sanctification, afin qu'au travers de la sainteté dans ma vie, d'autres parviennent à la sainteté. Et ne pas être là dans un contexte égoïste en disant « c'est juste une affaire entre Dieu et moi ». Mais si nous voulons que le monde soit sauvé, nous devons être sanctifiés. Si vous êtes des chrétiens qui, le dimanche, chantez de beaux cantiques, mais dans la semaine, personne ne veut vous fréquenter parce que c'est terrible d'être à côté de vous, parce que vous mentez, vous trichez, vous satrez, vous avez mauvais témoignage, je vais dire, waouh, est-ce que ça donne aux gens envie de venir à l'église, ça, et de devenir chrétien? Être comme lui, jamais. Mais quand on se sanctifie, quand on a une vie sainte, je peux dire ces choses ainsi, quand on laisse le Seigneur agir dans notre vie, alors c'est un témoignage pour ceux qui nous entourent. Et comme dit l'apôtre Paul aux Romains, une bonne odeur, un parfum de Jésus-Christ. Se sanctifier, c'est laisser la parole de Dieu agir en nous. C'est laisser la parole de Dieu agir en nous. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme, mais ça marche aussi pour la jeune fille, puis ça marche aussi pour ceux qui sont un peu moins jeunes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Comment marcher dans la vérité? Comment faire ce qui est bien en se dirigeant d'après ta parole? Et dans le même psaume, psaume 119, et on va au verset 11 maintenant, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voyez-vous, lorsqu'on parle de sanctification et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est cette attitude de cœur qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur, je la médite, je la passe sur mon cœur afin de ne pas faire le contraire de ce que dit ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. » Mais pour obéir à la parole de Dieu, et pour ne pas être en contradiction avec ce que dit la Bible, il faut déjà commencer par la lire. Vous croyez pas? Il faut déjà commencer par savoir ce qui est écrit dans ce livre. Il faut déjà commencer par savoir ce que Dieu a à nous dire. Si nous lisons pas la Bible, si nous connaissons pas les principes, la parole de vérité, comment est-ce que nous pouvons dire « Je fais, moi, tout ce que Dieu me demande. » Je sais pas trop ce qu'il y a dans ce livre, mais je fais ce que Dieu dit, ce qu'il y a dans ce livre. Je ne sais pas trop ce qu'il y a, mais je pense que je suis à peu près conforme. C'est comme si vous faites construire une maison, la personne dit « j'ai pas lu les plans, mais je pense que ça va te plaire, c'est à peu près ce que tu voulais. » On va avoir confiance, hein. Mais comment est-ce qu'on peut dire « je crois que je suis un bon chrétien ». Si tu es un bon chrétien, c'est parce que tu suis le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne comment est-ce que on peut ne pas pécher contre Dieu en serrant la parole de Dieu sur notre cœur. Je vous invite, si vous avez une Bible, à aller dans l'Épître selon Jacques. Jacques, chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 19. C'est là un passage important qui nous parle de la Bible et qui nous parle de la sanctification, de la mise à l'écart et de l'obéissance aussi. Je sais bien que le mot obéissance, c'est pas un mot qui est populaire par les temps qui courent. Mais c'est pourtant ce qui est écrit dans ce livre-là. Donc dans la Bible, nous trouvons dans l'Épître de Jacques, et on va afficher ça ensemble, Jacques chapitre 1er, verset 19. Et Jacques insiste en disant, il faut que vous sachiez ça, hein. Il faut que vous connaissiez ça. Sachez-le, mes frères bien-aimés, afin que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Est-ce qu'on est prêt? On va revenir avant, on va rester sur le 19. Est-ce qu'on est prêt à écouter? Et lorsqu'on lit la Bible, est-ce qu'on est là dans une attitude d'écoute? Est-ce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on est là pour écouter Dieu ou on est là pour parler et apporter nos revendications? Est-ce qu'on vient dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, il faut que tu m'écoutes, j'ai des choses à demander, j'ai des choses à dire » ou alors est-ce qu'on vient en disant « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » Que chacun soit prompt, soit rapide à écouter, lent à parler. C'est tout à fait vous, ça. Hein? Vous êtes lent à parler et rapide à écouter. C'est ça? C'est comme ça qu'on vous caractérise? Lent à se mettre en colère. Non, pas à Drummondville. Les Italiens ou dans le sud de la France, là, ils se mettent en colère vite, là. Mais à Drummondville, on est tellement calme et paisible. Lent à se mettre en colère. Parce que, et on lit le verset suivant, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous savez, des fois, on se met en colère tellement vite qu'on ne sait même plus pourquoi. On se met en colère tellement vite que la personne d'en face nous dit « Hé, Pourquoi tu te mets en colère? Je n'ai pas dit ça. Ah, excuse-moi, j'avais mal compris. Ben, écoute bien avant de te mettre en colère. Sinon, tu risques de te mettre en colère pour rien. Et en tout cas, tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Verset 21 nous dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Recevez avec douceur cette parole. Qu'on puisse être au contact de la parole de Dieu et avec douceur, sans rébellion, sans obstination, simplement recevoir cette parole. Verset 22, mettez en pratique la parole. Est-ce qu'il y a une voiture qui dérange? Voilà, parce que comme ça on le fait ça une fois pour toutes, puis c'est bon? Parfait. On est dans Jacques. Acte, c'est pour ce soir. On est dans Jacques, chapitre 1er, verset 22. On y arrive. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et ça, malheureusement, ça ressemble beaucoup aux chrétiens du 3e siècle. 3e siècle, 3e millénaire. Ouh. Vous suivez?
Oui. Bon.
Mettez en pratique la parole. Et bien souvent, on se borne à l'écouter. On vient dimanche après dimanche à écouter le pasteur, du moins j'espère, personne ne dort. On est là en train d'écouter, on dit bon, on aime bien écouter la parole, on l'écoute encore. Mais il ne faut pas vous borner, et c'est-à-dire vous dire moi j'écoute seulement, je suis un bon écouteux. Mais il ne faut pas seulement écouter. Il ne faut pas vous tromper par de faux raisonnements en disant « Oui, bon, le pasteur dit ça, la parole de Dieu dit ça, mais pour moi, c'est différent. Vous ne connaissez pas mon contexte. Moi, ce n'est pas pareil. Je suis l'exception. Je suis dans un cas particulier et le Seigneur connaît mon cœur. Le Seigneur m'aime. Il veut pas de mauvaises choses pour moi. C'est vrai que la parole de Dieu dit que ça, ce n'est pas correct. Mais bon, le Seigneur va faire une exception pour moi parce qu'il ne veut pas que je sois malheureux. La parole de Dieu dit que il ne faut pas se mettre sous un joug avec un infidèle. Il faut faire attention avec qui on se lie. Et c'est difficile de construire quelque chose lorsqu'on n'est pas dans la même direction. Ah oui, mais ça, c'est la... bon, c'est vrai, la Bible dit ça, mais moi, c'est différent. Hein. C'est vrai que la personne n'est pas chrétienne, mais je l'aime, moi. Les autres, ce n'est pas la même chose. Mais moi, je l'aime tellement que ce n'est pas grave, le Seigneur va me bénir pareil. Ne vous bornez pas et ne vous trompez pas de faux raisonnements. Vous savez, quand on se trompe pas de faux raisonnements, c'est des raisonnements qui nous semblent justes. Ça a l'air d'avoir de l'allure. Et on est convaincu que non, mais ça marche. J'ai fait mon raisonnement, j'ai fait ma démonstration et on est même capable d'essayer de convaincre les autres et de dire, écoute, ça a de l'allure ce que je dis quand même. Bon, la Bible dit ça, mais moi je le vois d'une autre manière. Ne vous trompez pas de faux raisonnements. Et allez pas chercher midi à 14h, on dit ça au Québec. Allez pas chercher des choses compliquées lorsque la Bible est simple. Et allez chercher à justifier, à excuser des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas conformes. Verset 23, « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Verset 24, « Et... » qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu est comme un miroir. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous montre tel que nous sommes. Et si tu te vois tel que tu es dans ce miroir, et que tu ne fais rien pour changer, il y a un problème. Quelqu'un me dit, mais il n'y a rien à changer, moi. Quand je me vois dans un miroir, c'est parfait. Oui, mais pas dans le miroir de la parole de Dieu. Le miroir de la parole de Dieu va te montrer quelques défauts. Va te montrer que tu es mal coiffé, qu'il y a une tache ici, qu'il y a des choses qui se corrigent. Mais si tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu et que la parole de Dieu te montre tel que tu es, et que tu dis, bon, d'accord, je suis comme ça, puis tu continues ta vie sans tenir compte de ce que la Bible te dit, eh bien, tu ressembles à cet homme qui s'est vu dans un miroir et puis qui oublie aussitôt comment il était. La parole de Dieu, il faut l'écouter et il faut la mettre en pratique. La mettre en pratique, c'est obéir à ce que la Bible nous dit pour notre bien. Mais verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, donc la parole parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, il n'oublie pas ce qu'il a lu et entendu, mais en se mettant à l'œuvre, c'est-à-dire en obéissant, mettant en pratique la parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. » Est-ce que vous voulez être heureux dans le service de Dieu? Est-ce que vous voulez être heureux dans la vie chrétienne? Vous savez, quand on sait que Dieu nous demande quelque chose et qu'on ne le fait pas, on ne peut pas être heureux. Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, on dit, ben, je sais que Dieu voulait que je fasse autre chose de ma vie. Je sais que Dieu voulait que je m'implique dans tel ministère. Ou je sais que Dieu voulait que j'arrête telle ou telle mauvaise habitude. Mais je ne suis pas trop sûr de le vouloir, je ne suis pas convaincu, ou c'est plus fort que moi, ou j'ai toutes sortes de raisonnements pour justifier et expliquer. Eh bien, je vous plains quelque part. Parce qu'on ne peut pas être heureux et épanoui. Lorsque l'on sait que le plan, la direction, la loi parfaite de Dieu, le chemin parfait de Dieu nous invite à aller dans telle direction et qu'on décide d'aller dans une autre direction. Je ne sais pas si Jonas était heureux dans le ventre de son grand poisson. Et peut-être que quelqu'un est en train de combattre ce matin en disant « Oui, mais moi j'ai mes raisons, moi j'ai des faux raisonnements, toutes sortes de justifications. » On est heureux quand on met en pratique la parole de Dieu. On est heureux quand on se soumet à la parole de Dieu. On est heureux lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Et je veux lire le verset qui suit quand même, parce que je pense qu'il est important aussi. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, souvenez-vous que ça commençait par ceux qui sont lents à parler et rapides à écouter, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Notre religion, si je veux reprendre l'expression de l'apôtre Jacques, notre vie chrétienne, c'est écouter et c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas venir dire toutes sortes d'affaires sur « tu devrais faire ci, tu devrais faire cela », il faudrait, et puis pointer du doigt avec toutes sortes d'accusations, qu'on soit les premiers à écouter. Et je reprends ce que Jésus disait dans Jean 17, il dit « je veux me sanctifier pour eux ». Et si nous nous mettons à l'écart pour eux, c'est alors que nous pourrons avoir un impact sur ceux qui nous entourent. En conclusion, j'arrive sur la sanctification et je dis la sanctification, c'est égal, parce que c'est la définition de la sanctification, c'est égal à une séparation et à une préparation. La sanctification, c'est se séparer, c'est se mettre à part, c'est se mettre à l'écart. Un chrétien qui est sanctifié, c'est qu'on sait qu'il n'est pas comme les autres. Il ne fait pas les choses comme le monde le fait, parce qu'il obéit au principe de la parole de Dieu. À quelqu'un qui se sanctifie, c'est quelqu'un qui se met à l'écart, qui se met à part pour dire « je veux être propre, je veux être saint » pour que la présence de Dieu soit dans ma vie. Souvenez-vous, soyez saints parce que Dieu est saint. Et comme ce vase qui doit être propre pour recevoir la présence d'un liquide précieux, eh bien nous voulons être propres, saints, purs pour recevoir la présence de Dieu dans notre vie. Être séparé en obéissant au principe de la parole de Dieu. Sanctifier, c'est se préparer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, et j'invite les musiciens à s'approcher, l'apôtre Paul peut dire aux Corinthiens, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. L'apôtre dit « Sortez, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. » Est-ce qu'on le comprend pour nous ce matin? Se sanctifier, c'est se séparer, c'est sortir du milieu dans lequel on est, qui n'est pas un bon milieu. Peut-être quelqu'un n'est pas concerné ce matin par cette parole, mais d'une certaine manière, on l'est tous, en disant « Voyons voir, est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas correctes et pas conformes à ce que Dieu veut. Est-ce que je peux me sanctifier encore ?» La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, on n'est pas arrivé. Hein? Et qu'on peut dire, Seigneur, je veux me séparer et ne pas toucher ou ne plus toucher à ce qui est impur. Et la parole de Dieu nous dit, je vous accueillerai. Le verset continue, l'apôtre Paul continue, verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er, ça continue ainsi. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Est-ce qu'on peut ce matin venir dans la présence de Dieu et dire, « Seigneur, je veux me purifier, je veux me sanctifier, je veux me mettre à part de toute souillure et de continuer notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ce qu'on réalise, parce qu'on est toujours dans la préparation, et on va l'afficher, de cette série « Veux-tu être guéri ?» que si nous voulons voir le Seigneur agir au milieu de nous, que si nous voulons voir la puissance de Dieu agir au milieu de nous, il faut que nous soyons prêts. Amen. J'aimerais inviter les musiciens qui ne sont pas prêts à ce que je vais leur demander, mais ils vont se préparer, à aller dans un chant qu'ils n'ont pas préparé. Je vais peut-être le prendre. Qui dit, tu peux prendre un micro, peut-être prendre le micro sans fil. Qui dit, je veux être saint. Je sais que le chant n'a pas été préparé, mais j'aimerais qu'on puisse se lever à nos places et dire, Seigneur, ce matin, je veux dire, je veux me sanctifier. Je veux me préparer. Je veux que tu puisses te servir de moi. Seigneur, nous venons dans ta présence, on prie ensemble. Seigneur, nous disons ce matin, je veux être dans ta présence, je veux être saint. Je veux être mis à part. Je veux, Seigneur, te servir. Je veux être prêt pour que la gloire de Dieu descende sur ma vie. Nous voulons, en tant qu'Église, dire, Seigneur, nous voulons nous sanctifier, nous purifier. S'il y a des souillures, s'il y a des choses sales, des choses mauvaises dans nos vies qui viennent empêcher d'une certaine manière ta gloire de descendre au milieu de nous, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons rejeter, repousser, nous séparer de ces choses. Et dire, Seigneur, je veux être saint ce matin. Je veux être purifié. Je veux que tu puisses te servir de moi et que ton nom soit élevé, que ta gloire descende dans ce lieu. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.